lasst mich vor dem Gebet aus dem Judabrief, die ersten vier Verse lesen. Vielleicht darf ich bitten.
Avant la prière, permettez-moi de lire les quatre premiers versets de l'épître de Jude. Peut-être puis-je demander que nous nous levions pour cela. Jude, du verset 1 au verset 4. Moi, Jude, un serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, j'envoie mes salutations à ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient accordés avec toujours plus d'abondance. Bien-aimé, comme le désir de mon cœur est de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sens poussé à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Peut-être, ça marche jusqu'ici, prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour le grand privilège que les Saintes Écritures sont valables pour nous encore aujourd'hui comme elles l'ont été pour nos frères et sœurs au commencement. Nous avons été remplis de la même grâce et aimés du même amour. Nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Seigneur bien-aimé, tu n'as qu'une seule église, l'église des premiers-nés, la troupe élue, la semence divine. Tu nous demandes et tu nous avertis à combattre à défendre la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, à lutter pour cette foi. Fais que je le fasse, Seigneur, et que nous le fassions tous dignement. Seigneur, cette foi vivante dans le Dieu vivant nous est devenue précieuse. Nous te prions, Seigneur fidèle, d'être présent aujourd'hui, vraiment présent. Oui, nous te le demandons, s'il te plaît, passe outre toutes nos faiblesses, tous nos manquements, toutes nos erreurs, toutes nos infirmités, pardonne-nous entièrement. Ne nous en veux à aucun d'entre nous. Sois miséricordieux envers nous et bénis-nous. Nous croyons en la puissance de ton sang et la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit. Sois maintenant d'une manière puissante, agissant, efficace de manière puissante, agissant parmi nous. C'est à toi, Dieu vivant, que nous nous confions. Accorde-nous la grâce de parler et la grâce d'entendre. Dieu fidèle, tu sais que je ne sais pas ce que je dois dire. Mais toi, tu le sais. Tu donnes des paroles de vie, d'avertissement, de rappel, de consolation. Nous te remercions pour cela de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai cherché une citation de frère Branham dans la prédication « Le signe ». Et ensuite, nous irons dans la méditation de la parole et peut-être que je lirai ensuite l'autre prédication, d'une autre prédication. Ici, frère Branham dit, nous voyons que les signes de la fin des temps sont là. Si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la parole, car il parle de ce que je vous ai dit. Si je ne vous disais pas la vérité, il n'y aurait pas de confirmation. Dieu ne confirmera jamais un mensonge. Dieu dit la vérité. Ces paroles confirment et témoignent que je vous dis la vérité. Ce sont elles qui témoignent du message que je prêche. Et maintenant, écoutez ce qu'il ajoute ensuite à cela. Ce n'est pas seulement parce que l'ange a dit autrefois près du fleuve, le 11 juin 1933, ton message précédera la seconde venue du Christ, mais aussi parce que les œuvres elles-mêmes le prouvent. Vous entendez? Pas seulement parce que l'ange l'a dit, mais parce que Dieu a confirmé la confirmation divine ou alors le mandat divin. L'envoi divin, Dieu l'a vraiment confirmé, a confirmé l'envoi et le mandat. Et c'est pourquoi il dit encore, si vous ne pouvez pas croire que l'ange a dit la vérité, croyez les œuvres, car la Bible dit que ces choses arriveront à la fin des temps. Nous croyons les deux. Nous croyons tout. Je crois de tout mon cœur que Dieu a ses anges et ce sont des esprits serviteurs envoyés à cause de ceux qui doivent hériter de la béatitude. Si vous le voulez, je vous le lis. Je vais vous le lire pour que vous sachiez que c'est écrit ainsi. Et c'est ainsi qu'a commencé le Nouveau Testament. En fait, c'est aussi qu'il se terminera. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. En outre, à quel ange aurait-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits de service envoyés pour rendre service à cause de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui connaissent et ont lu le début du Nouveau Testament savent que l'ange Gabriel est venu chez Zacharie. Il est venu à Marie. Lorsque l'annonce a été faite, voici le Christ, le Seigneur, vous est né dans la ville de David. C'était pas seulement un ange, mais quand cela a eu lieu, les armées célestes chantaient et louait Dieu, et un ange a fait l'annonce, voici, qu'aujourd'hui, vous êtes né le Sauveur. Dieu reste le même. Je crois à 100%, sans aucune nuance, que William Branham, en tant qu'homme n'ayant que 7 années d'école, et ne connaissait même pas correctement la langue anglaise, a apporté un complexe de chez lui qu'il aurait pu accomplir le ministère de lui-même. Il n'aurait pas pu accomplir ce ministère de lui-même. C'était une vocation divine, un appel divin, un mandat divin. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Même en ce qui concerne ce qui lui a été dit, et je m'en réjouis à chaque fois que nous avons cette formulation sous les yeux. Ainsi, ton message, pas toi, mais ton message précédera la seconde venue du Christ. Je m'en réjouis tout particulièrement. Dieu prend les messagers, mais il nous laisse le message. Il a pris les prophètes, mais nous a laissé la parole prophétique. Il a pris les apôtres, mais nous a laissé la parole et l'enseignement des apôtres. Dieu sait exactement ce qu'il fait. En tout cas, depuis les jours de Jésus-Christ, il ne s'est pas passé ce qui s'est passé dans notre génération par le ministère de Frère Branham, par grâce. Et c'était aussi, comme il le dit lui-même, une confirmation qu'il ne prétendait pas seulement être envoyé par Dieu, mais qu'il était effectivement un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu en ce temps. C'est ce qui le distingue de tous les évangélistes et soi-disant hommes de Dieu de cette époque. Pas un seul d'entre eux ne connaît un jour ou une heure d'un appel et d'une et d'un mandat ou alors d'un envoi aussi divin que celui que Frère Branham a reçu du Seigneur. Nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que nous n'avons pas suivi des fables conçus, mais nous avons suivi la parole prophétique que Dieu a placée sur le chandelier et qui brille très fort dans les ténèbres. C'est pourquoi Pierre écrit aussi, nous avons maintenant la parole prophétique d'autant plus fermement, d'autant plus certaine. Entrons maintenant dans la méditation de la parole, en commençant avec la parole que nous avons lue en introduction. En particulier, il s'agit toujours de la même chose, comme le dit ici l'apôtre, un serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur fait ce que son maître lui ordonne. Comme les yeux de la servante regardent sa maîtresse pour recevoir un ordre et faire ensuite ce qui est dit. De même, les serviteurs de Dieu regardent à leur maître qui donne les ordres pour savoir ce qui doit être fait. J'ai ouvert une page correspondante dans la prédication de Frère Branham, le cri de détresse, ou bien alors être poussé à bout. Et il dit ici à la page 16, mais d'abord doit venir le désespoir intérieur. Intervenir le désespoir intérieur. Alors seulement Dieu entend notre prière. Si nous prenons les choses à la légère, alors nous ne sommes pas inquiets qu'il le fasse ou pas ou non. Vous prétendez prendre les choses au sérieux. Mais il faut un cri de détresse sérieux pour que cela se produise. Je crois que nous manquons de cette détresse intérieure parce que nous ne possédons pas assez de l'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu provoque le cri de détresse désespérée. Si Dieu est en vous et que le signe parle pour vous et que vous voyez la condition des hommes en ce temps, comment ils marchent dans le péché, alors vous serez jeté dans une détresse intérieure. Je crois que cela arrivera. En tant qu'Église du Dieu vivant, nous devons en effet entrer dans ces douleurs de l'enfantement, de la naissance. et que cela devienne pour nous un cri de détresse intérieure, qu'il s'agisse de notre propre état, de l'état de l'Église, ou que nous voyons les yeux ouverts que la fin de toutes choses est proche. L'humanité est égarée de toutes les manières possibles. J'ai réfléchi à cela. Par exemple, maintenant, lorsque le 14e président des États-Unis a prêté serment devant le juge fédéral suprême, tout le monde a vu. Le monde entier l'a vu, pas moi, mais le monde entier, n'est-ce pas? Je n'ai aucun rapport avec la télévision. Avec la télévision, je n'ai pas le temps non plus de regarder la télévision, mais je l'ai lu et j'ai vu la photo. Le monde entier a regardé comment Mme Bush tenait une Bible et comment il posait sa main sur la Bible. Ce qu'ils ne savaient pas tous, c'est que 4 hommes sélectionnés de la loge maçonnique de New York ont apporté cette Bible à Washington spécialement pour cette occasion. Et qu'elle était munie d'une équerre et d'un compas. Ils ne le savaient pas, hein, tous, ou vous le saviez. Le monde entier est trompé de la manière la plus pieuse qui soit, sans comprendre ce qui se passe en ces moments. La Bible était munie d'une équerre et d'un compas. Nous pouvons remercier Dieu du fond du cœur de nous avoir ouvert les yeux. Et si l'on lit en plus que George Washington a prêté serment sur cette Bible, il faudrait alors ajouter que George Washington est devenu le premier grand maître de la grande loge de New York en 1700, tant et tant. Vous pouvez le lire dans les statistiques. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Je le fais spécialement parce que le monde entier est induit en erreur au nom du christianisme. Et si c'est encore possible avec la Bible, et si c'est encore possible avec Gloria, Alléluia, et tout ce qui va avec tambour et trompette, sont conduits dans l'erreur, induits en erreur. Et nous sommes de plus en plus reconnaissants pour la révélation que Dieu nous a donnée par grâce dans cette génération. Et c'est pourquoi nous n'avons pas honte de confesser que nous croyons que Frère Branham était un homme envoyé par Dieu. Pas comme d'autres hommes qui se sont faits et déclarés eux-mêmes prophètes et qui ont donné naissance à une religion ou à une croyance quelconque. Mais un prophète de la parole, un prophète parole qui n'a pas donné naissance à une nouvelle religion ou à une nouvelle croyance, mais qui nous a montré l'ancienne direction divine, à savoir retour à la parole, retour à Dieu, retour au message de l'heure. En êtes-vous reconnaissant et heureux? Notre Dieu fait de grandes choses pour nous et pour beaucoup d'autres. Ici, dans l'épître de Jude, nous avons lu que nous devons lutter, combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une foi pour toutes. De quelle foi s'agit-il? Et comment naît-elle? Comment se forme-t-elle? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il croit. Et celui qui veut lire l'épître de Jacques, il le peut, car il y est écrit que même le diable croit et tremble. Si l'on entend l'homme du Vatican parler, il dit, je parle aux croyants. Si vous entendez Khomeini parler, Il s'adresse aux croyants. Tout le monde veut, parle aussi à ceux qui le croient, n'est-ce pas? C'est ainsi que cela se présente. Et c'est ainsi. Mais il y a des gens qui ont une foi vivante dans le Dieu vivant. Et pourquoi l'ont-ils? Parce que le Dieu vivant les a interpellés, leur a parlé. Parce qu'il leur a parlé. Il leur a adressé la parole. Parce qu'il les a appelés. Parce qu'il les a choisis, élus. Et c'est la semence d'Abraham. Tout comme le Seigneur a parlé à Abraham. Et que celui-ci ensuite l'a cru. Et a abandonné tout ce qui pouvait l'entraver et l'arrêter, le retenir pour répondre à l'appel divin. Il en va de même pour nous. Quitte la maison de ton père, ta patrie et tout, et suis-moi, et suis-moi. C'est ce qu'il a fait. La foi vivante n'existe qu'en ceux que le Dieu vivant a interpellé, à qui il a parlé et a appelé personnellement. Notre Seigneur parle. Suis-moi. Celui qui ne quitte pas tout ne peut pas être mon disciple. Nous devons prendre notre croix, porter notre croix sur nous. La foi, comme le dit l'Écriture, la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. J'aimerais transmettre de mémoire, autant que je le peux, une citation de frère Branham. Il a dit, la foi est la ligne de vie, l'apport qui nous permet de recevoir de Dieu la puissance et la sève de la vie. La foi en la présence du Dieu vivant. Je pense que sur ce point aussi, nous pouvons croire, comme le dit l'Écriture. Notre Seigneur dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que s'est-il passé? Là où Dieu a appelé des hommes, il a ensuite conclu une alliance avec eux. Il leur a fait des promesses. Et c'est dans ces promesses-là que leur foi était ancrée. La foi des véritables croyants n'est pas ici ou là. Elle est fondée. Elle est ancrée dans les promesses de la parole de Dieu. Et cela implique que nous puissions croire de tout cœur aux promesses pour ce temps. Et c'est le point qui nous distingue en effet de tous les autres. Je ne révèle ici aucun secret, aucun mystère et ne dis probablement rien de nouveau. Mais ce que l'on devrait savoir, c'est qu'il existe deux grands mouvements pentecôtistes et beaucoup, beaucoup d'autres. L'un est le mouvement de la Trinité et l'autre le mouvement de l'unité, qui tous baptisent au nom de Jésus-Christ, croient en un seul Dieu et combattent néanmoins avec véhémence frère Branham et le message qu'il a apporté. Et lui impute beaucoup de choses, en particulier sur la révélation de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et bien d'autres choses encore. Une des personnes principales de ces gens m'a dit en face, je n'aurais pas cru Branham capable d'un tel manque de goût. Pourquoi? Ces personnes ne savent même pas ce qu'est un prophète. Un prophète est un révélateur de la volonté et des mystères de Dieu. Un prophète n'est pas un contemplateur, un fantaisiste. Un prophète est un voyant. Un prophète est un homme de Dieu à qui la parole du Seigneur parvient. Et quand elle vient, elle vient. Et elle est vraie. Nous pouvons nous y fier. Je dis cela uniquement parce que nous sommes effectivement différents de toutes les dénominations, même de celles qui sont les plus proches de nous et qui, comme je viens de le dire, ont beaucoup de choses en commun avec nous. Mais ensuite, nous entendons toujours de la bouche du prophète envoyé par Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, de chaque parole, pas de quelques paroles, une ici et une là, mais de chaque parole, de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et parle-t-on à de telles personnes de la promesse que Dieu a voulu envoyer le prophète Élie avant le grand et terrible jour du Seigneur? Oui, alors il se frappe les deux mains au-dessus de la tête et on n'entend plus que ces mots « Laisse-moi tranquille, je ne le crois pas ». Il nous est dit ici de combattre pour la foi qui a été transmise à qui? Aux critiques? Aux scribes qui pensent savoir mieux les choses que nous? Non, aux saints. À ceux qui sont séparés par Dieu, qui ont été appelés hors du monde, qui sont nés de Dieu, qui ont été engendrés par l'Esprit et qui ont reçu un lien personnel avec Dieu et avec la parole de Dieu. Il est certain que ces choses qui ne signifient rien pour les autres nous sont devenues grandes et précieuses. Grandes et précieuse. Je dois le dire ainsi. Je peux le dire. Ce sont justement les choses que les autres rejettent, mais qui sont destinées à notre époque, qui me sont devenues les plus précieuses. Et je remercie mon Dieu de ce que nous n'avons pas seulement le terme de plein évangile, mais que nous avons le plein évangile dans les faits. C'est-à-dire que tout ce qui en fait partie doit et peut être proclamé, annoncé. Les prophètes, hommes de Dieu devaient, les hommes de Dieu devaient suivre le chemin que Dieu leur avait tracé. Vous pouvez trouver des exemples dans l'Ancien Testament. Après son appel, chaque homme de Dieu devait tout quitter et suivre son chemin avec Dieu. Le peuple d'Israël a dû suivre le chemin de Dieu après sa sortie et son appel à sortir, après son exode. En tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas le choix. En tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'une seule voie et c'est celle de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est de croire aujourd'hui comme le disent les Écritures. Jésus l'a dit aux scribes de l'époque. La forme du ciel, vous savez très bien la juger, mais les signes des temps, vous ne les comprenez pas. Le Seigneur a fait inscrire les signes des temps dans sa parole. Pour quelle raison? Pour que nous connaissions l'époque dans laquelle nous vivons. Je l'ai déjà dit ici. Lorsque, après le départ de Frère Branham en mai 1966, je me suis trouvé devant la question de savoir quelle prédication devait être traduite. J'étais alors ému intérieurement et la prédication était devant mes yeux. Reconnaissez le jour et le message. Comprends une prédication. C'est la question que je me demandais. À quoi servent des centaines de sermons si nous n'avons pas reconnu le jour et le message? Soyez honnêtes. Pour une fois, tout le monde ne lit-il pas les Saintes Écritures? S'il se déclare chrétien, Bullman n'a-t-il pas lu et enseigné les Écritures? Barth n'a-t-il pas lu et enseigné les Écritures? N'avons-nous pas eu des théologiens qui en chair ont sapé les Écritures au point d'ôter au peuple la confiance en elles et la foi en Dieu? Malheureusement, ce ne sont pas Marx et Engels qui ont détruit la foi. Ce sont les gens, justement, de la plateforme qui l'ont détruite du haut de la chair parce qu'ils ont introduit le doute dans la parole et dans la prédication. Notre Dieu est crédible et sa parole est la vérité, la pure vérité. Quand les Écritures disent « Moïse a frappé le rocher » et l'eau a jailli, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et s'il y a des gens qui disent, oui, il faut être naïf pour croire une chose pareille, alors je dois simplement dire que ces gens ne connaissent pas Dieu en tant que créateur. Celui qui connaît Dieu en tant que créateur et qui pense à l'univers infini, regarde un tel point avec bienveillance et dit, Seigneur, c'était une petite chose pour toi de faire cela. Est-ce juste? Notre Dieu n'a pas besoin de se retrousser les manches, puis de manger d'une manière ou d'une autre avec force pour pouvoir recevoir des forces pour ensuite faire quelque chose. Non, notre Seigneur prononce une parole et cela se produit. Il donne naissance et c'est là. Il ordonne et cela existe. C'est là, c'est la foi, en la présence de Dieu. La foi vivante parmi ceux qui ont reçu une nouvelle vie de Dieu. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau n'ont rien de commun, en fait, avec Dieu. Ce n'est que lorsque nous sommes nés de Dieu et que nous sommes devenus participants de la nature divine que nous pouvons être d'un seul esprit avec lui. Nous pouvons être un seul esprit avec lui et que nous pouvons alors aussi être en accord et conforme avec lui par grâce. Je voudrais ensuite lire quelques passages des Actes des Apôtres au chapitre 20. Le verset bien connu que nous avons déjà entendu à maintes reprises, lorsque Paul a pu le dire à l'époque et que Luc l'a mis par écrit, Actes 20, verset 27. Actes des Apôtres 20, verset 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. C'est notre tâche en ces jours. Je l'ai déjà dit, cela fait partie du plein évangile. Et ce sont précisément les choses dont les autres se moquent et passent sous silence qui nous caractérisent, à savoir que nous sommes du côté de Dieu et que nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, Paul, ou plutôt Luc, qui écrit ici son récit, a écrit quelque chose de magnifique à partir du verset 16. Actes des Apôtres 26, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 16 à 18, Actes apôtres 26. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car c'est pour cela que je te suis apparu, pour faire de toi un ministre et un témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je te ferai voir encore. Et je te sauverai du peuple d'Israël et des nations vers lesquelles je t'enverrai. Tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin d'obtenir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Ici, il n'est pas seulement question de la foi. Ici, le Seigneur dit ceux qui parlent, sanctifiés, donc ceux qui parlent la foi en moi. La foi a besoin d'un point de référence. Et ce point de référence, c'est Jésus-Christ. Il a dit, vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il est écrit ici, ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Dans la vérité, la sanctification dans la parole se fait par la foi en Jésus-Christ, qui est la parole devenue chair. En lui, Dieu a résumé tout ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Il était la somme de tout cela. Il était la réponse. Donc, pas seulement la foi en général, floue, mais la foi fondée en Christ, ancrée en lui et sûre de lui. Bien sûr, la foi vient de la prédication. Et d'où vient la prédication? La prédication vient de la parole de Dieu. Et d'où vient la parole de Dieu? De la bouche de Dieu. Et alors, il est écrit, qui vous écoute? Celui qui vous écoute, m'écoute. Alors ça applique, qui vous écoute, m'écoute. Quand est-ce que les gens entendent-ils Dieu? Écoutent-ils Dieu? Lorsque la prédication ne fait que transmettre ce que Dieu a dit. Et que les personnes n'expriment pas leurs opinions à ce sujet, mais qu'ils transmettent simplement ce que Dieu a dit. Celui qui vient ainsi à la foi vient aussi au repos en Dieu. Je vous le lis dans le prophète Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, deux versets, d'abord le verset 12 et ensuite je lis le verset 16. Lui qui leur a dit ceci, la terre de la promesse est le lieu de repos. Donnez du repos à ceux qui sont fatigués. Et ceci est le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Et celui qui n'écoute pas ne peut pas non plus parvenir à la foi. La foi vient en écoutant. Celui qui entend vraiment ce que Dieu nous dit par sa parole parvient au repos en Dieu. Je lis maintenant le verset 16, tiré d'Ésaïe 28. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, sachez-le, c'est moi qui pose un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse, solide, comme le roc. Celui qui croit ne sera pas confus. Avons-nous entendu cela? Celui qui croit ne sera pas confondu, ne sera pas confus. En qui les hommes auront-ils honte? En Jésus-Christ. Ils trébuchent, ils tombent. Je ne veux pas en parler ici, mais j'ai lu récemment un livre purement informatif, où un homme a tellement dénigré le Nouveau Testament et notre Seigneur que cela fait profondément mal. J'ai dû dire à la fin, comme c'est grave quand des personnes non autorisées, qui n'ont aucune relation avec Dieu, prennent certains passages de la Bible et en font ensuite une telle catastrophe. La foi vient de la prédication. Par exemple, lorsque le Seigneur dit, certains de ceux qui se tiennent ici ne mourront pas avant que le Seigneur ne soit venu dans son règne. Les critiques prennent cela et encore 60 ou 70 autres passages et puis ils s'en vont avec ça. Et frère Branham l'a reçu en révélation par le Saint-Esprit ce que cela signifiait, à savoir lorsque Jean, sur l'île de Patmos, a pu voir le Seigneur dans sa gloire, tel qu'il sera dans le règne, et qu'il dit, c'est alors que l'Écriture s'est accomplie. Mais les non-croyants, ils ne comprennent pas. Ils prennent un peu ici, un peu là, et ne savent pas ce qu'ils font. Nous croyons alors aussi que si Paul a écrit certaines choses au présent, il devait le faire. Je peux même démontrer que dans les Écritures, on n'écrivait pas seulement au présent, mais au passé. C'est bien au passé qu'ont été écrites des choses qui devaient encore attendre des centaines d'années. Le meilleur exemple est le psaume 22, Ésaïe 53, le tout au passé. Ils ont percé mes pieds et mes mains, tout au passé. Ils étaient frappés à cause de nos péchés, martyrisés à cause de nos fautes. Le châtiment était sur lui pour notre paix. Et c'est par ces blessures, que nous avons été guéris. Forme du passé était encore longtemps, alors que c'était encore dans longtemps dans le futur. Oui, à votre avis, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le passé ou le futur? Il est éternellement présent. Il était, il est et il sera. Il n'est pas celui qui était, ou bien qui serait. Il est ce que je suis. Il est le je suis. Et il. Pas ce que je suis, mais le je suis. Et il peut dire actuellement ce qui est encore dans un avenir lointain. Celui de Patmos, Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il voyait déjà toutes les choses qui étaient encore dans un avenir lointain. Oh, comme Dieu est glorieux. Comme sa parole est glorieuse pour ceux qui ont eu accès à Dieu et à sa parole. Je pourrais refuter chaque point qu'un tel homme avance. Chaque point. Mais je n'aurais ainsi aidé personne. Celui qui ne peut pas croire, Et soyons reconnaissants de pouvoir faire partie de ceux qui peuvent croire, comme le dit l'Écriture. Amen. Ceux qui peuvent croire de tout leur cœur, comme le disent les Écritures. Voici le mystère. C'est en effet la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, celle qui est selon les Écritures. Frère Branham le mentionne également. Lorsque le prophète Ésaïe devait prophétiser, une vierge enfantera, et ainsi de suite. Et la vierge dit, oui, comment cela sera-t-il? Je ne connais pas d'homme. La semaine dernière, j'ai raccroché le téléphone parce qu'une vieille dame qui s'est déjà un peu retiré, a dit quelque chose de très maladroit à ce sujet. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Je ne laisserai pas mon Seigneur être dénigré. Pour moi, notre Seigneur Jésus est le Sauveur. Il est né d'une vierge, engendré par le Saint-Esprit. Dans son corps, le péché et la mort n'avaient pas de droit. Mais il n'avait aucun droit, mais il devait venir dans cette chair pour pouvoir nous racheter de cette chair, pour pouvoir ôter le pouvoir de la mort et mettre en lumière une vie et une nature incorruptible. Mais lorsqu'au bout de la du fil, on me demande si je peux vraiment croire cela de cette manière, c'est déjà un peu beaucoup, n'est-ce pas? Je crois de tout mon cœur, comme le disent les Écritures. Je ne sais pas, mais je n'y peux tout simplement rien. J'aime mon Seigneur. Et celui qui lui fait du mal, c'est à moi qu'il fait du mal. Je n'y peux rien. Et celui qui lui fait subir l'opprobre, je suis affecté. Je suis simplement affecté. Aimons tous le Seigneur de tout notre cœur. Aimons-nous le Seigneur de tout notre cœur. Ce qui l'atteint nous atteint. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi dire ce qui nous touche. Cela le touche aussi, n'est-ce pas? Nous sommes liés à lui. Nous sommes unis. Nous ne faisons plus qu'un. Dieu offre une révélation prophétique et je viens de lire dans les Proverbes. Ils n'ont pas seulement une sagesse universelle ou des règles sur la manière de se comporter, bien que l'on devrait recommander à tous, n'est-ce pas, à tous les gens de lire les Proverbes. Ne serait-ce que pour cette raison, n'est-ce pas? Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans le Proverbe. Pardon, Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. S'il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple devient indocile. Mais heureux est-il s'il observe la loi de Dieu. Là où il n'y a pas de révélation prophétique, pas d'interprétation prophétique, mais révélation prophétique. Pas interprétation, mais révélation. Nous avons également parlé et écrit à ce sujet. Il y a eu des époques, en particulier depuis la Réformation, où les hommes ont modérément puisé dans la connaissance. Mais ce que Dieu a donné par révélation est tout simplement très différent. Afin de ne pas blesser ces gens, ils vivaient en effet à une autre époque. Faisons appel à 1 Corinthiens 13. Notre prophétie est partielle, est en partie, notre connaissance est en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors le partiel cessera. Et j'ose dire que la révélation parfaite de Jésus-Christ, la révélation entière de Jésus-Christ, la révélation parfaite et entière de la parole de Dieu, la révélation parfaite de son conseil de salut éternel nous a été annoncée par grâce. Et comme Paul, frère Branham a pu dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple devient indocile. Il est débridé. Il est sans bride. Ils vont tous comme des chevaux quand les rênes leur échappent. N'est-ce pas? Je me souviens très bien de cela. J'ai aussi eu affaire à des chevaux et je me suis réveillé une fois alors que je devais amener ma mère à la gare. Il était très tôt et vous savez que quand on est jeune, on n'aime pas trop se lever à 4 heures du matin. Et sur le chemin du retour, vous savez où je me suis réveillé? Quand la voiture s'est arrêtée sur le poteau de la porte. Les rênes m'avaient glissé dans des mains, mais les chevaux connaissaient le chemin, n'est-ce pas? Quand les rênes glissent de la main, les chevaux ou tout ce qui va avec vont là où ils veulent aller. Ici, la parole de Dieu nous dit que là où il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple devient débridé, indocile. Pas le cheval. Le bœuf connaît la crèche de son maître et l'âne sait où est sa place. L'hirondelle connaît son nid et les oiseaux migrateurs savent quand il doit partir. Mais mon peuple ne m'a pas reconnu. Et l'Éternel dit, moi, la source d'eau vive, ils m'ont abandonné. Et ils se sont construits des citernes trouées pour cela. Les animaux connaissent généralement leur chemin. Mais les hommes, même les croyants, sont comme des moutons. Une brebis ne trouve pas son chemin. Et c'est pourquoi nous avons besoin du bon berger qui nous guide et nous dirige toujours, qui nous précède. Ne pensez pas que nous pouvons marcher seuls. Ne chantons pas. Comme nous le chantons, n'est-ce pas? Pas un seul pas. Pas un seul pas. Nous pouvons marcher seuls. Que dit Paul? Ou bien Paul écrit aux Corinthiens, « Quand je viendrai chez vous, j'apporterai aussi quelque chose. » C'est-à-dire des paroles de révélation et d'instruction, etc. 1 Corinthiens 14, verset 6. Ainsi, frère, si je venais à vous en parlant en langue, à quoi servirais-je si je ne vous adressais pas des paroles de révélation ou de connaissance, des paroles prophétiques ou un enseignement? Tout cela en fait partie. Des paroles de révélation. Oui, comment pouvons-nous apporter des paroles de révélation? En annonçant et en communiquant la parole révélée. Cela aussi, j'ose le dire, et j'espère que personne ne pense que c'est une pensée personnelle. Personnellement, je pense comme ce que chantait Ter Stegen ou l'une des poétesses de la chanson, notre intelligence est enveloppée de ténèbres si la main de ton esprit ne nous remplit pas d'une lumière éclatante. Mais j'ose dire ceci. Si nous écoutons la parole révélée par Dieu, par le Saint-Esprit, et si ce même Saint-Esprit est présent, et si l'onction repose sur nous, alors nous verrons ce que les prophètes ont vu, nous comprendrons comme ils ont compris par le même Saint-Esprit. Nous n'aurons pas besoin de nous enseigner les uns les autres et nous n'essayerons pas de le faire. Je me permets également cette remarque aujourd'hui. Il m'arrive de faire des observations. Dieu merci, pas en ce lieu. Et personne ne doit donc se sentir personnellement visé. Mais je fais déjà mes observations. Et lorsque je vois un frère qui veut tout faire comprendre à l'autre par de nombreux gestes en lui disant qu'il comprend, je me dis doucement que ce frère n'a pas encore compris lui-même. La pensée me vient. Ce frère n'a pas encore compris lui-même. Ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre. Ils seront tous enseignés par Dieu. Et alors, nous aurons le même enseignement et la même révélation. Encore une parole tirée de l'épître à Timothée qui a également pris de l'importance pour moi dans ce contexte. Dans ce contexte, vous savez que Paul était tout simplement un apôtre, un berger, un enseignant, un prophète, un berger, comme il est écrit dans le livre de Dieu. Et il est dit ici, dans 2 Timothée, chapitre 2, écrit à son collaborateur, verset 15. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, parce qu'il présente avec exactitude la parole de la vérité. D'autres traductions disent, dispense correctement, partage correctement. Je pense qu'à cet égard aussi, nous pouvons le dire à la gloire de Dieu. Depuis que tout le conseil de Dieu a été merveilleusement révélé, nous pouvons partager la parole de Dieu correctement. Ce qui est pour Israël est classé pour Israël. Ce qui est pour l'Église est classé pour l'Église. Ce qui est pour l'épouse est classé pour l'épouse. Tout cela dans le bon contexte et au bon moment, au temps convenable, afin que, comme nous l'avons déjà dit, l'enseignement sur toutes choses et à tous puisse être dispensé de la même manière. Résumons. Il n'y a pas de doute. Tous ceux qui croient en Dieu de tout leur cœur. Résumons. Il n'y a pas de doute. Tous ceux qui croient en Dieu de tout leur cœur, vraiment. Je ne parle pas ici de la foi en tant que profession de foi. Je ne crois pas que je parle du mot foi qui est souvent utilisé au quotidien dans toutes nos langues. Je crois qu'il fera beau. Je crois que le soleil va briller. Je crois ceci, je crois cela. Je crois que ce n'est pas ce que je veux dire maintenant. Non, je parle maintenant du mot foi, de la parole, la foi qui nous relie à Dieu. Je parle maintenant de la foi qu'avaient Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. La foi dont parlent les Écritures, dont notre Seigneur dit, même dans Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'Écriture l'a dit. Celle-ci, cette foi-là, par une relation ou à partir d'une relation que Dieu a établie avec nous, rétablie avec nous, par la prédication qui a établi un lien avec lui. Cette foi conforme à l'Écriture qui a été transmise au sein une fois pour toutes est liée et ancrée avec chaque parole de Dieu. Pour toutes les promesses de Dieu, le oui et l'amen ont été prononcés en Christ. C'est pourquoi la foi biblique n'est pas l'affaire d'une confession religieuse quelconque, mais de ceux qui sont nés de Dieu et qui ont reçu le lien avec Dieu. Combien d'entre vous peuvent dire « Amen » tout de suite, si je pose la question, avez-vous reçu par la prédication de la parole la foi vivante dans le Dieu vivant, dans la parole vivante en général? Avez-vous reçu par la prédication de la parole la foi vivante? Alors dites Amen. Amen. Je le crois. J'en suis convaincu. Il ne peut en être autrement. Et celui qui croit ne sera pas confondu. Parfois, Dieu nous met à l'épreuve jusqu'à ce que ce soit presque impossible. Combien de fois as-tu dit et combien de fois ai-je dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est trop. Et tout à coup, j'ai quand même continué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui retenons le Seigneur. Ce n'est pas nous qui tenons le Seigneur, c'est lui qui nous tient. Et il dit, personne ne les arrachera de ma main. C'est lui qui nous tient, pas nous. Le Père qui me les a donnés, les gardera, et ainsi de suite. Dans ce résumé ou cette synthèse, il est aussi question de prendre en compte les promesses pour notre époque. Tout comme il y avait alors un messager et un message avant la première venue du Christ, il en est de même maintenant. Dieu a pris le messager. Il nous a laissé le message. Puisse ce que ce frère a écrit ici de Syrie se réaliser. Que l'heure sonne où l'évangile éternel sera proclamé sur toute la terre avant que le Seigneur ne vienne. Pour le salut des uns, mais pour les autres, un témoignage. Mais qu'ils sachent que Dieu avait un prophète dans notre génération et qu'ils sachent qu'en cet âge prophétique dans lequel nous vivons, la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Le jour arrive, l'heure vient où la différence sera révélée entre ceux qui ont vraiment cru, ont cru à moitié seulement ou aux trois quarts, et à ceux qui ont cru pleinement, comme l'Écriture l'a dit. Aujourd'hui, pour la masse, nous sommes des insensés. Ce jour-là, ils seront les insensés. Et nous entrerons dans la joie du Seigneur. Restons fidèles jusqu'à la mort. Certains m'ont déjà beaucoup menacé, en particulier de la République populaire de Pologne, parce que je n'avais pas ménagé la papauté dans la brochure l'Antichrist. Mais j'ai reçu une lettre très violente. Mais ne demandez pas le soleil, ne me demandez pas après le soleil. Hein. Et comme je me réjouis que Dieu m'ait donné une colonne vertébrale, même sur le plan purement terrestre, non seulement pour écrire, mais aussi pour me tenir debout pour ce que j'ai écrit, non seulement pour annoncer la vérité, mais aussi, s'il le faut, pour mourir pour cette vérité, afin que beaucoup d'autres puissent vivre. Il serait pourtant très facile pour moi de faire un peu de diplomatie ici et là. N'est-ce pas? Je ne suis pas là pour ça. Les hommes de Dieu ne sont pas des diplomates. Ils sont des messagers de Dieu à la place de Christ. Ils doivent annoncer la vérité. Et le jour viendra où beaucoup se réjouiront que nous avons proclamé la vérité divine en ces temps de malheur, en ces temps mauvais. Et je conclurai par la parole glorieuse que Jésus, mon Sauveur, a prononcée. Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre. Nous pouvons être un peuple qui a reçu la grâce de Dieu, un peuple de Dieu rendu libre. Le pardon des péchés, nous l'avons reçu par le sang précieux de l'agneau, enseigné par Dieu lui-même, par sa précieuse et sainte parole. Nous combattrons pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et cela jusqu'à la fin. Et alors nous serons couronnés ensemble. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous. Grand Dieu, Créateur du ciel et de la terre, en ton nom, devant ta face, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Tu es celui qui est toujours présent, l'omniprésent. Tu es celui qui a parlé à Abraham, le Je suis, qui a envoyé Moïse et qui a dit, c'est moi, c'est toi. Tu dis, je suis le chemin. Tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Je suis le premier et le dernier. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a personne. C'est sur toi que nous sommes jetés. Nous dépendons de toi. Nous venons à toi en toute humilité. Nous habitons parmi une génération pécheresse et nous avons vu sur nous des lèvres impures. Nous venons à toi. Nous venons à toi et te demandons encore une fois de nous purifier de la tête aux pieds. Et en particulier, nos cœurs et nos sens, nos pensées, toute notre pensée. Que tout soit dirigé dans tes voies. Que tout soit trouvé, ordonné dans tes pensées. Seigneur bien-aimé, nous te croyons. Nous croyons ce que tu as dit. Que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sauveur bien-aimé, nous t'avons confié cette réunion. Nous n'avons pas seulement mis ton nom en avant. Nous voulons dire, nous pensons à toi, c'est de toi que nous voulons parler. Notre Seigneur bien-aimé, notre Sauveur, c'est de toi que nous parlons quand nous prononçons ton nom, mentionnons ton nom. Qui s'est laissé frapper et qui, dans cette génération encore, est insulté, sali, défiguré, comme aucun autre homme. Seigneur, ce qu'on ne fait pas à un philosophe, à un autre homme, on le fait à toi. Comme autrefois, comme maintenant, c'est comme une nouvelle crucifixion, comme si le Fils de Dieu était à nouveau livré à l'opprobre et à la honte. Et les incrédules se repaissent de ce spectacle. Seigneur bien-aimé, je te prie du fond de mon cœur, fais-nous reconnaître par le monde incrédule, que le monde incrédule puisse reconnaître que tu es vivant et que tu te révèles et que tu te manifestes et que tu es avec ton peuple encore aujourd'hui. Enlève l'opprobre de nous afin que nous puissions l'enlever de toi. Ah Seigneur, tu connais mon cœur. Je le désire ardemment. Je voudrais te voir agir comme le ressuscité au milieu de ton peuple. Sauveur bien-aimé, ouvre-toi un chemin, toi-même viens, reçois ce qui te revient avec moi et avec nous. Nous ne te demandons pas seulement, mais nous le pensons vraiment. Fais-nous reconnaître ta volonté et aide-nous ensuite à la faire. Car l'heure de la glorification du nom de Jésus est arrivée. Seigneur, à une époque où tu es tellement insulté, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, peu importe. Oh Seigneur bien-aimé, ils regarderont vers toi, à toi, celui qu'ils ont transpercé, qu'ils ont percé, et ils se lamenteront et crieront. Sauveur bien-aimé, tu nous as pardonné, tu nous as parlé, nous pouvons être ta propriété. Quelle grâce, quel privilège. Dans cette génération où il y a tant de tromperies, de pieuses tromperies, de tromperies chrétiennes, dites chrétiennes, nous avons pu te reconnaître et entendre ta parole. Rendons grâce pour l'envoi de ton serviteur et prophète, pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Seigneur, je suis touché, ému, je ne peux pas faire autrement que tu puisses visiter toutes les nations et leur faire annoncer et qu'ils puissent encore et que le glorieux évangile leur soit encore annoncé. Et si tu ne trouves personne d'autre, tu sais où j'habite et ce que je suis à ta disposition. Bénis ici mes frères qui aspirent à être utilisés par toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de grandes choses comme tu l'as fait au commencement. Et glorifie ton nom et confirme ta parole. Ah mon Dieu, comme j'ai envie d'être, de vivre, d'être témoin de la façon dont tu seras glorifié, dont tu es glorifié. Nous y sommes. Nous voici ici maintenant. Nous déposons devant toi tous ceux qui ont levé les mains, ceux qui viennent à toi aujourd'hui, Seigneur, là où le pardon est nécessaire, là pardonne, lave, accepte, reçois, purifie, agrée et sanctifie. Là où la clarté est nécessaire, donne-la, Seigneur. Ce dont les individus ont besoin, chacun individuellement, que tu puisses le leur donner. Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas partir comme que personne ne parte comme il est venu. Donne-nous un lien personnel avec toi, à toi, ô Dieu, et que tes bénédictions affluent. Je suis ici et je crois que ta parole n'est pas revenue à vide, sans effet. Pas non plus aujourd'hui. Ta parole est très précieuse, trop précieuse pour cela. Seigneur, nous ne sommes souvent pas conscients d'être à tes pieds et d'entendre réellement ta parole telle qu'elle est sortie de ta bouche. Nous te consacrons tous les nouveaux venus. Nous nous consacrons nous-mêmes qui sommes déjà ici. Et nous te prions, Seigneur, sois avec nous tous. Regarde ton peuple dans la grâce. Bénis, Seigneur, ton héritage. Conduis-nous dans le droit chemin, de peur que l'ennemi ne nous détruise. Ne laisse personne être confus et avoir honte. Ne nous laisse pas regarder les uns aux autres, mais à toi, pour ne pas avoir honte nous-mêmes. À toi, Dieu vivant, louange et remerciement, gloire et honneur. Je voudrais encore te remercier, Seigneur, fidèle, de m'avoir donné en son temps le privilège d'entendre personnellement frère Branham et d'en être le témoin oculaire et auriculaire. Me voici donc en train de témoigner en ton nom. Ô Seigneur, loué et exalté, sois ton saint nom. Amen.